foi et turbulence.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Foi et turbulence. Mon nom est Francine Robert. Cette semaine, l'émission est assurée par l'Institut de pastoral des Dominicains et j'aurai le plaisir de recevoir un des professeurs de l'Institut de pastoral, monsieur Michel Proulx, qui est prémontré du couvent de Saint-Constant, tout près de Montréal. Michel est professeur en études bibliques. Et il nous parlera des prophètes, et particulièrement des prophètes Amos et Isaïe. Alors, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de la radio et des études bibliques. Ça va s'entendre et ça va être un véritable plaisir de l'écouter, j'en suis certaine. Michel Proulx, bonjour.
Bonjour, Francine.
Bienvenue à l'émission, Michel. Merci d'avoir accepté de faire cette émission-là pour nous. Je disais que vous alliez nous parler des prophètes. Vous êtes professeur en études bibliques. Vous n'enseignez pas seulement les prophètes. Je vous ai déjà entendu à Radio Ville-Marie sur Moïse, je crois, sur...
Oui, c'est très juste. Pendant 10 ans, en fait, j'avais une émission ici dans la série « Chemin d'intériorité ». Où j'ai exploré plusieurs livres bibliques, surtout du côté de l'Ancien Testament.
Oui, l'Exode.
Alors, exactement. On avait fait toute une série avec Samuel, le roi David, par exemple. Et du côté du Nouveau Testament, j'avais exploré à un moment donné les récits de résurrection dans Saint-Luc. Puis, toute une année aussi qui avait porté sur le livre de l'Apocalypse.
Ah, mon Dieu, aux joies. Ma préférence va aller au prophète Michel.
Oui.
Alors, on s'est dit, évidemment, on peut pas parler des 16 prophètes en 55 minutes, mais peut-être vous pourriez nous faire une présentation un peu générale sur les prophètes, et on pourrait se concentrer sur deux d'entre eux ensuite, soit les prophètes Amos et Isaïe.
Bonne idée.
Alors, allons-y sur le prophétisme en général. D'abord, on parle du prophétisme biblique, bien sûr. J'ai vu dans la description du cours que vous allez donner que vous les appelez des éveilleurs de conscience.
Oui, c'est exact. C'est que moi, j'aime bien voir les prophètes comme des gens qui essayent d'éveiller la conscience des gens, c'est-à-dire de les rendre attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Vous savez, les prophètes, ce ne sont pas des hommes de sacristie, ce ne sont pas des ermites qui vivent le coupé de la société. Ce sont des gens qui sont très impliqués, qui connaissent ce qui se fait au niveau politique, au niveau social, et qui essayent un petit peu d'amener les gens à voir clair. Parfois, il y a de la propagande que les rois faisaient. Il y avait des attitudes, je dirais, qui pouvaient être questionnantes.
Oui.
Et donc, les prophètes essayaient d'aider les gens à voir clair dans tout ça. Aussi de les aider à vivre en fidélité avec Dieu, bien sûr. Parfois, les gens ne se rendaient peut-être pas nécessairement compte que par leur façon de vivre, qu'ils étaient à côté de ce qu'étaient les appels de l'Alliance. Et ils les rappelaient à l'ordre, je dirais. Ils leur faisaient prendre conscience de là où ils avaient dévié, ou de ce qu'ils ne voulaient pas voir. Parfois, ils pouvaient aussi avoir de la mauvaise volonté de la part des gens.
C'est un peu des fatigants, les prophètes, non? Des empêcheurs de tourner en rond.
Vous avez tout à fait raison. Oui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas toujours appréciés dans les milieux où ils avaient à prendre la parole, parce que bien souvent, ils dénonçaient, ils mettaient en lumière, je dirais, des combines là qui n'étaient pas tout à fait acceptables. Je dirais que si on mettait ça un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu ceux qui auraient pointé, un petit peu comme des journalistes d'enquête, là, un petit peu comme ce qui a mené à la commission Charbonneau dans notre société. Moi, souvent, dans mes cours, je dis aux étudiants que il y a tout un aspect de ce qu'était la mission des prophètes à l'époque, dans l'Antiquité, qui a été repris par les journalistes aujourd'hui.
Ah, mon Dieu! Les journalistes qui nous écoutent vont être étonnés, Michel.
Ben, je vous explique pourquoi. C'est que les prophètes remettaient les gens en pouvoir devant leurs responsabilités. Mm-hmm. Hein? Ils les confrontaient à ce qu'ils devaient faire, qu'ils devaient être des serviteurs de la population, qu'ils devaient travailler au bien-être de la population. Et confrontaient les rois, les rappelaient à l'ordre dans ce sens-là. C'est un peu ça que font les journalistes aujourd'hui. Ce sont ceux qui analysent ce que font les politiciens et qui bien souvent les confrontent aux promesses qu'ils avaient faites lors des campagnes électorales, souvent des choses qu'on avait oubliées. Eux, parce qu'ils ont enregistré, ils ont filmé, ils les remettent devant ce qu'ils ont dit et ils leur demandent, dans le fond, d'être cohérents avec eux-mêmes.
Oui.
Et c'est une partie de ce que faisaient les prophètes de l'Antiquité. On parle moins souvent de cet aspect-là.
En effet, et je trouve ça d'autant plus pertinent qu'on est dans un monde où on sait que la vigilance, c'est important.
Oui.
Oui.
Puis vous savez, en particulier, les prophètes avaient vraiment le souci des personnes mal prises, des personnes laissées pour compte dans la société, de ceux qu'on appellerait les pauvres, ceux qui étaient sans pouvoir, ceux dont on avait tendance à abuser un peu trop facilement, qui n'avaient pas de voix ou de capacité pour ou de pouvoir pour protester, contester. Alors, les prophètes sont ceux qui sont un petit peu la voix de ces personnes-là. Et pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? C'est que ça part de leur foi. Vous savez, le Dieu qui est à la base là, de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de l'Exode. Un Dieu libérateur, un Dieu sauveur, qui a été à l'écoute de cette classe de population qu'on appelait les Hébreux, qui étaient en Égypte, mal pris, et qui, on le présente dans le livre de l'Exode comme celui qui a été attentif. Hein? J'ai entendu le cri qui est venu jusqu'à moi.
Tout à fait.
Alors, ils partent de cette image de Dieu et ils se disent, ça devrait être, comme on a un Dieu libérateur, ça n'a pas de bon sens que dans ce peuple de l'Alliance, que ceux qui sont au pouvoir soient devenus des oppresseurs comme la figure du Pharaon.
Ouais.
Ça devrait être un peuple où on fait la promotion de la liberté, du bien-être, de la solidarité. Et c'est ça qu'ils essaient de défendre, parce qu'ils partent de cette image d'un Dieu qui veut de la solidarité, un Dieu qui est libérateur, et c'est un petit peu ce genre de comportement dont ils essaient de faire la promotion dans le tissu de la société.
Donc, c'est comme si la religion et le projet de société sont très liés, au fond, ce que j'entends.
Oui, exactement. Et les prophètes partent du principe que pour qu'une démarche religieuse soit authentique dans le contexte de l'Alliance, dans le contexte du Dieu biblique, ça doit être une démarche religieuse qui tient compte aussi des personnes. On ne peut pas séparer la démarche religieuse, la démarche liturgique, de la façon dont on se comporte en société.
OK, il n'y a pas une fois de la semaine puis une fois du dimanche.
Oui, ou du samedi.
Ou du samedi, si on est en monde biblique.
Exactement. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Bien souvent, pour les prophètes, une foi authentique, une démarche authentique, puis celle qui plaît à Dieu, c'est celle qui a le souci du pauvre, du mal pris, hein? Les catégories là, de laisser de l'époque, l'orphelin, la veuve, l'immigrant, donc ceux dont on pourrait abuser facilement.
Oui, et donc les prophètes vont non seulement dénoncer le manque de foi, mais dénoncer le manque de justice, c'est ce que vous me dites.
Oui, le manque de justice et aussi de cohérence religieuse. Et c'est par rapport à ces divers champs de la vie de l'être humain qu'ils éveillent la conscience. Pour amener, à être authentique, à être vrai.
Oui.
Ils veulent de la droiture. Ils ont un projet de société qui devrait être épanouissant pour les personnes.
Ce que je trouve intéressant, Michel, là-dedans en particulier, c'est le fait que pour nous, le religieux est individuel. Dans ce que j'entends, le religieux est essentiellement communautaire.
Tout à fait. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, dans toute la tradition judéo-chrétienne, normalement, la démarche religieuse est quelque chose de communautaire. Hein? C'est un peuple que Dieu a choisi. Et dans ce peuple-là, ben, il y a des personnes qui l'appellent, à qui il confie des missions particulières. C'est le cas pour les prophètes, mais c'est pour le bien de la communauté. Il rappelle justement aux personnes qui auraient tendance à vouloir tout ramener à eux, travailler seulement pour leur bien-être à eux-mêmes, s'enrichir au mépris des autres, que non, c'est inacceptable. Et une démarche religieuse qui serait seulement une piété individuelle, aller au temple, aller offrir un sacrifice, si ce n'est pas en cohérence avec le développement d'un tissu communautaire, d'une solidarité, en particulier avec les personnes mal prises, c'est une démarche que Dieu n'agrée pas. Puis ils sont très forts, les prophètes, là-dessus.
Donc, ils sont, c'est ça, des gens vigilants, ils analysent la situation.
Oui.
Je reviens à votre image des journalistes qui me plaît beaucoup.
Si je peux ajouter quelque chose, ça demeure des hommes ou des femmes, parce que des prophétesses aussi, ça demeure des personnes portées par une espérance. L'espérance d'un peuple qui serait fidèle, l'espérance d'une société où il y aurait de la solidarité, et même quand il menace le peuple des pires châtiments, le roi des pires châtiments, il faut voir clair là-dedans, parce que souvent, les personnes qui commencent à lire l'Ancien Testament sont rebutées par les menaces que font les prophètes. Mais moi, j'explique toujours à mes étudiants que c'est parce qu'ils portent l'espérance que leurs auditeurs peuvent se convertir. S'ils n'avaient pas l'espérance que leurs auditeurs peuvent se convertir, ça ne vaudrait pas la peine de parler.
Effectivement.
Hein? Et parfois, je leur donne l'exemple. Vous savez, j'étais pas un ange, moi, quand j'étais enfant ou adolescent. Mais parfois, ma mère me menaçait de toutes sortes de choses. Hein? Encore quand ton père va arriver, ou si tu continues comme ça en fin de semaine. Mais pourquoi est-ce qu'elle me faisait ces menaces-là? C'est parce qu'elle espérait que je change de comportement.
Oui.
Et elle ne voulait pas me les donner, ces punitions-là.
Oui.
Mais elle voulait provoquer, par des paroles fortes, un changement d'attitude. C'est précisément ce que font les prophètes.
Je vois.
Hein? Ils ne souhaitent pas que Dieu punisse le peuple.
Que le malheur arrive.
Non, mais ils espèrent, par des paroles fortes, susciter une conversion. Et par ailleurs, ils ont espérance en la miséricorde de Dieu, que Dieu pourra à nouveau accepter le peuple dans sa démarche de conversion.
Voyez-vous,
une espérance à l'égard du peuple, mais aussi une espérance en la miséricorde de Dieu.
Oui, je vois. Il y a un cliché, Michel, sur lequel j'aimerais revenir. Fait deux clichés.
D'accord.
Un très courant qui est, mais non, les prophètes, ça fait pas juste annoncer des malheurs, les prophètes, ça annonce de l'avenir, ça fait des prédictions. L'autre cliché, c'est que les prophètes sont tous des hommes, puis vous avez dit vite, vite en passant, les hommes et les femmes, parce que, alors j'aimerais que vous reveniez là-dessus ces deux clichés, s'il vous plaît.
Bon, prophètes des gens qui annoncent l'avenir... Oui, ça arrive que les prophètes peuvent dire quelque chose sur l'avenir. Mais c'est avant tout des hommes ou des femmes du présent. C'est-à-dire qu'ils observent ce qui se passe autour d'eux et ils peuvent dire, ben, si vous continuez à agir comme ceci, voici quels risquent d'être les conséquences pour l'avenir. Souvent, en se basant, s'ils voient que le peuple est infidèle, si le peuple n'est pas en fidélité avec ce que demande l'Alliance, ben, ils peuvent annoncer que si le peuple continue comme ça, c'est bien sûr qu'ils ne pourront pas être dans les bonnes grâces de Dieu,
ouais.
Hein, dans ce qui s'en vient.
Ou est-ce qu'on pourrait même dire qu'ils engendrent leur propre malheur, même si on n'attribue pas nécessairement les effets négatifs à l'intervention de Dieu, à des punitions? De fait, une société qui se vit tout croche, c'est une société qui se crée des problèmes.
Bien sûr.
On le voit bien encore aujourd'hui.
Oui. Alors justement, les prophètes sont des gens qui sont capables d'analyser ce qui se passe au présent. Je dirais que ce sont des gens au regard lucide.
Oui. Hein?
On dirait qu'ils font partie des lucides.
C'est pas des illuminés, alors. Ce sont des réalistes.
Oui. Bien sûr, leur vie spirituelle... Leur méditation, leur prière, certainement, leur ouvre les yeux, leur donne des clés d'interprétation.
Oui.
Mais donc, des gens qui analysent ce qui se passe autour d'eux. Vous parliez de votre deuxième...
De femme,
oui.
C'est vous qui en avez parlé, Michel, alors.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Dans le fond, je...
Il n'y a aucun livre de prophète femme dans la Bible. Hein?
Il n'y a pas de livre de prophète femme, mais à toutes les époques, il y a eu des prophétesses. Qu'on commence dans des parties plus reculées, comme à l'époque de Moïse, il y avait sa sœur Myriam, dont on dit qu'elle était prophétesse. À l'époque des juges, il y a eu la fameuse Déborah.
Ah, la grande.
Hein? Si on pense, par exemple, à l'époque de la grande réforme du roi Josias, il y a eu une femme qui s'appelait Hulda, moins connue, mais qui a joué un rôle très important, parce que dans une certaine mise en scène, on dit qu'un livre a été découvert dans le temple, ce qui est probablement l'origine du livre du Deutéronome. Eh bien, on n'était pas sûr que c'était un livre biblique authentique. Puis on va chez une prophétesse pour faire un petit peu authentifier. Et cette prophétesse-là, je dirais, c'est un peu elle qui a le dernier mot.
Oui,
là. Elle était importante.
Oui.
Donc, ça n'a pas été seulement une affaire d'homme.
Mm-hmm.
Même si on n'a pas de livre biblique consacré à recueillir
des... À la carrière ou à la prédication d'une prophétesse, ça va.
Et c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, la réalité prophétique, elle est assumée par des personnes venant de toutes sortes d'horizons. Là, on vient de parler qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des gens qui étaient plutôt de haut niveau. Il y a des gens bien simples, des gens de tous âges, des gens de toutes sortes de conditions matrimoniales. Comme Osée, par exemple, qui va marier une prostituée, puis qui va prophétiser à partir de sa condition.
Oui, à partir de son expérience.
Exactement. Oui. Quelqu'un comme Jérémie, qui sera plutôt dans le célibat. Quelqu'un comme Ézéchiel, dont l'épouse meurt.
Mais il était prêtre, en plus.
Oui,
Ézéchiel, c'est
exactement.
Un prêtre réformé, ça.
Tout à fait. Donc, il y a des gens qui étaient un peu plus de l'institution, puis des gens qui viennent de on ne sait trop où.
Okay. C'est très démocratique, alors.
Exactement.
Peut-être, à propos d'Amos et de Isaïe, Michel, on parlera de comment vient ou comment naît la vocation prophétique.
Oui.
D'accord. On va prendre une petite pause pour digérer un peu ce que vous venez de nous dire. Vous avez choisi de la musique mm-hmm. que vous souhaitez faire entendre.
Oui, ben je vous propose comme plage musicale un chant grégorien de l'ordre auquel j'appartiens, qui est l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré. Ce sont mes confrères de l'abbaye d'Averbaude en Belgique qui chantent le psaume 113.
Merci, Michel. Michel Proulx, qui est professeur d'études bibliques à l'Institut pastoral. Michel nous parle des prophètes. On va mettre l'accent un peu plus donc sur deux de ces prophètes bibliques, Amos et Isaïe. Vous allez nous les situer dans leur contexte historique, Michel.
Oui,
Amos, ça doit être, je pense, un des plus anciens là, qui a un livre.
C'est-à-dire que c'est le plus ancien prophète pour lequel nous avons un livre biblique. Amos est un prophète du 8e siècle. Il y a eu des prophètes avant ça. Hein? Il y a eu Élie, Élisée,
oui,
Samuel.
Oui, au 9e siècle, c'est ça.
Mais avec Amos, c'est le premier dont on ait un recueil d'oracles bien constitué en livre. Donc, le 8e siècle.
Puis vous dites un recueil d'oracles. Je reviens un peu à ce qu'on aurait pu aborder dans la première partie. C'est pas les prophètes qui écrivent leurs livres, hein? Ce sont pas des écrivains, les prophètes.
Non, en général, ils ont quelqu'un qui écrit pour eux. Ils ont des disciples. Par exemple, Jérémie, c'est celui pour lequel c'est le plus clair. Dans le livre de Jérémie, on connaît qui est son scribe, c'est Baruch, qui travaille pour lui, qui met ses choses par écrit. Pour les autres, on sait pas, c'est anonyme. Mais en général, là, les prophètes sont pas des écrivains, ce sont des hommes de la parole. C'est vraiment la parole qui est au cœur de leur ministère.
D'accord. Donc, parlons un peu d'Amos, qui n'est pas non plus, de toute manière, un grand scholar, si ma mémoire est bonne.
Non, écoutez, Amos, c'est tout à fait particulier, parce qu'il vient du monde agricole. C'est quelqu'un qui soignait les figuiers. Il était bouvier, probablement pas un pauvre, quelqu'un qui possède des bêtes, mais il dit lui-même dans le livre qu'il n'était pas préparé à devenir prophète. Il travaillait sur son exploitation agricole. Lorsque la parole a surgi en lui, l'appelant à apporter un message. Et ce qui est bien particulier, c'est que lui, qui est un homme du Sud, qui vient du royaume de Juda, il est appelé à aller prophétiser chez les voisins du Nord, dans le royaume d'Israël.
C'est le même peuple, hein?
C'est le même peuple.
Deux régions, deux États, on pourrait
oui,
dire.
Oui, ils se sont séparés vers 930 okay. à peu près. Le Nord a fait l'indépendance. On peut comprendre un peu ce que ça veut dire dans le contexte de notre pays. Et donc, il va prophétiser dans le Nord, porter la parole.
Et là, on est, vous nous disiez, au 8e siècle, donc dans les années 700...
Autour de 750.
750.
Un ministère qui a duré que quelques mois, ça n'a pas été long.
Ah bon?
Oui, parce que il dérangeait trop. On s'est arrangé pour le faire taire. Écoutez, je vous explique un peu le contexte.
Oui.
C'est dans un contexte où les grandes puissances internationales étaient affaiblies, l'Égypte, la Syrie, et où est-ce que le roi, c'était Jéroboam II, qui était en poste à cette époque-là, reprend un petit peu du poil de la bête, si je puis dire, et il reconquiert des territoires qui leur avaient appartenu autrefois. Ce qui veut dire qu'il y a plus de matières premières. Et ils font même des petites colonies autour, donc ça leur apporte de l'entrée d'argent et tout ça. Donc, une période de prospérité économique pour le Royaume du Nord. Mais le problème, c'est que malheureusement, cet argent-là, ces biens-là ne sont pas répartis équitablement. Et alors qu'on aurait pu penser que c'est le bien-être, le niveau de vie de toute la population qui allait être augmenté, on se rend compte que les plus riches s'enrichissent et que les plus pauvres sont laissés pour compte.
Mon Dieu, que le monde n'a pas changé, hein?
Oui. Alors, c'est dans un contexte comme ça que Amos va intervenir. Et vous savez, ce qui est bien particulier, c'est qu'à cause du contexte de prospérité économique, à Bethel, qui était le grand sanctuaire royal, on pouvait se permettre des liturgies formidables avec des musiciens professionnels, puis des chantres et tout ça. Donc, il y avait de magnifiques liturgies. Mais il y avait un problème au niveau de la justice sociale, la répartition des richesses. C'est une période, étrangement, de corruption au niveau de la justice, du système judiciaire, et ce problème de cohérence au niveau de la démarche religieuse. Alors, c'est tout ça que vient questionner le prophète Amos. Je ne sais pas si je pourrais vous lire un passage qui est intéressant.
Allez-y.
C'est au chapitre 8 d'Amos. Les versets 4 à 6, hein, Amos dit ceci. « Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre, pour anéantir les humbles du pays, vous qui dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant l'épha, augmentant le sicle, faussant des balances menteuses, achetant des indigents pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons même la criblure du blé. » Alors, voyez-vous, il nous présente des gens qui, d'une part, oui, sont empressés d'aller vivre les liturgies.
La néoménie, c'est ça, la fête de la nouvelle lune.
Les nouvelles lunes, c'est-à-dire qu'il y avait des célébrations liturgiques privées.
Ouais.
Mais ils ont hâte que ça passe pour pouvoir continuer à faire de la fraude. Hein. Ils disent que les balances sont faussées.
On vend au poids, hein, donc on fausse les poids.
Oui, tout à fait. Alors, voyez-vous comment il y a de l'incohérence dans ce peuple-là. Et il les remet en question. Puis il leur dit, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. Vous ne pouvez pas penser être en communion avec Dieu quand vous vous comportez comme ça. Et il a des expressions très, très fortes. Là. Il aime dénoncer les femmes de haute société qui se vautrent sur des fauteuils, puis tout ça. Nous autres, je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui, mais j'imagine que... En tout cas, il les traite de vaches. C'est pas très, très politiquement correct. Hein?
Ben, les prophètes sont pas politiquement corrects.
Mais justement, et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on va demander à Amos de s'en retourner chez lui.
Mm-hmm.
À un moment donné, le prêtre Amasias, qui est le prêtre en chef du sanctuaire de Bethel, va dire, « Ben, tu peux prophétiser si tu veux, mais fais ça chez vous. » Hein? Retourne dans le sud, là. Ici, on ne veut pas t'avoir, c'est un sanctuaire royal.
C'est vrai, il n'est même pas de cette région-là.
Non.
Il faut du culot quand même, Michel. Il faut avoir du front autour de la tête, dirait maman, pour arriver d'ailleurs, puis dire, je vous dénonce,
exactement.
Vous êtes tout croche.
Oui. Puis, alors, voyez-vous, c'est ce qu'il suscite, c'est un petit peu ce que j'appellerais le syndrome du pas dans ma cour.
Oui.
Hein? Tu peux prophétiser, mais va-t'en chez vous pour ça.
Oui,
Chez nous autres, on n'a pas besoin de toi.
Oui, hein? Laisse-nous tranquille.
Puis, il le menace, là, de toutes sortes de choses.
Oui.
Alors, c'est vraiment particulier. Et Amos va donc avoir des paroles très fortes, puis il va les menacer là, des pires châtiments divins, il va les menacer de déportation, de tremblement de terre. Et, dans le fond, à travers tout ça, il veut susciter une conversion.
Mm-hmm.
Parce que c'est vraiment particulier de voir qu'il y a des passages où est-ce que, d'un côté, Amos menace le peuple de toutes sortes de châtiments, puis de l'autre côté, dans son intimité, il intercède auprès du Seigneur pour
dire, oui.
Seigneur, ben oui, il dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens que tu fasses ça, Israël est si petit.
Okay.
Ah, il ne fait pas le poids devant toi.
Okay. Alors, il dit aux gens, si je vous comprends bien, il dit aux gens, le malheur va vous tomber sur la tête, Dieu va vous l'envoyer. Et puis en privé, il dit à Dieu, envoie-leur pas trop de malheur.
Exactement. Parce qu'il dit, Seigneur,
bon,
tu ne peux pas les abandonner.
Hein? Ben, est-ce que vous avez un passage où on aurait ces apartés que Amos fait en privé avec Dieu?
Oui, bien sûr.
J'aime ça comme...
Je peux vous lire un passage où on voit Amos intercéder pour le peuple. Voyez-vous, il le menace d'abord que leur récolte, tout ça, va être dévasté par les sauterelles.
Mm-hmm.
Puis là, Amos se retourne de bord, puis dans son intimité devant le Seigneur, il dit ceci, c'est au chapitre 7 d'Amos, au verset 2 et 3. « Seigneur mon Dieu, pardonne, je t'en prie. Jacob pourrait-il tenir? Il est si petit. » Hein, Jacob, c'est un des noms avec lequel on désigne le royaume du Nord, Israël. Et le verset 3, on dit, « Le Seigneur s'en repentit. Cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. » Puis là, on a un autre exemple, toujours au chapitre 7, c'est, il menace le peuple du feu. Hein, le Seigneur va tomber le feu sur vous et tout ça, va dévorer le territoire. Puis là, on arrive à ceci, au verset 5, chapitre 7. Amos dit, « Seigneur mon Dieu, arrête, je t'en prie. Jacob pourrait-il tenir? Il est si petit. »
Encore, oui.
Oui, encore. Et le Seigneur se laisse toucher par ça. On dit au verset 6, « Le Seigneur se repentit. » Dieu dit, « Cela non plus n'arrivera pas. »
OK. Ce que j'aime là-dedans, Michel, c'est qu'on a toujours l'impression que les prophètes sont contre les gens qui les dénoncent avec tellement de... Il y a une violence verbale, d'ailleurs, vous nous avez lu le passage tantôt, avec beaucoup de calme, je suis sûr qu'Amos ne parlait pas sur ce ton-là. Et il y a une violence, et donc on a toujours l'impression qu'ils sont en marge de ce peuple. Et là, ce que j'entends, c'est qu'ils sont solidaires de ce peuple, assez pour être du côté du peuple face à Dieu, et non pas du côté de Dieu contre le peuple.
Exactement. Et je pense que ça devait être très inconfortable d'être
oui.
un prophète, parce qu'à la fois... Le prophète se solidarise avec Dieu.
Mm-hmm.
Il est son porte-parole. Le prophète, c'est un ambassadeur de Dieu. Il parle en son nom, donc il est vraiment en solidarité avec Dieu. Il défend les droits de Dieu, le droit d'être respecté. Bon. Et par ailleurs, il est aussi en solidarité. C'est un homme qui fait partie, ou une femme qui fait partie de son peuple, de sa nation. Et ils intercèdent pour eux.
Ouais.
Et dans mes cours sur les prophètes, je dis toujours qu'un des critères, il y en a plusieurs, mais un des critères pour discerner ce qu'est un authentique prophète d'un faux, c'était jamais facile à discerner, un des critères, c'est que les authentiques prophètes, bien souvent, on trouve chez eux cette dimension d'intercession pour le peuple.
Mm-hmm.
Et moi, ça me touche beaucoup parce que nous, comme chamans de Prémontré, une de nos missions, c'est justement de prier pour notre société,
oui,
pour
oui.
l'Église. C'est peut-être ça qui me rend attentif mm-hmm. et qui me permet de le voir chez les prophètes.
Ça me rappelle Moïse aussi, qui se met en colère contre le peuple qui a adoré le veau d'or. Je sais plus si c'est Exode 34 ou 32.
Mm-hmm.
Merci. et qui, trois lignes plus loin, est en train de supplier Dieu d'avoir pitié de ce peuple-là, parce qu'après tout, c'est lui qui l'a sorti d'Égypte, donc il est responsable maintenant.
Dans cela, je dirais qu'il est vraiment... On peut retrouver des traits prophétiques importants chez Moïse.
Oui. C'est vraiment intéressant. Alors, ce Amos, qui n'a eu qu'une carrière de quelques mois, on parle encore de lui 2700 ans après.
C'est impressionnant.
C'est hallucinant, je dirais même. Ça veut dire que même si à son époque, les gens n'ont pas trop apprécié son intervention, c'est quelqu'un qui laisse des traces extrêmement profondes.
Oui, puis vous dites, même si vous dites que son intervention n'a pas été appréciée, elle n'a pas été appréciée par les puissants, par les forts, qui se sentaient menacés, contestés par lui. Mais pensez à toutes ces petites gens dont il prenait la défense. J'imagine qu'ils appréciaient ce qu'il disait.
Ah oui.
Et on peut penser que c'est pas tout le monde qui était corrompu à l'époque. Et... il y a des gens qui ont accueilli sa prédication. Sinon, on ne l'aurait pas aujourd'hui dans la Bible. Il a fallu qu'il ait des disciples, des gens qui ont cru à sa parole, qui l'ont accueilli.
Tout à fait.
Et qui ont recueilli ses oracles, qui les ont recueillis comme quelque chose de précieux, comme étant expression d'authentiques paroles de Dieu, et qui ont trouvé pertinent de transmettre ces paroles-là, ces oracles-là, aux générations subséquentes.
Magnifique. Alors, on parlera pas malheureusement de son collègue prophète Osée, de la même région et presque de la même époque aussi, au 8e siècle.
Faudra se reprendre.
Mais j'inviterais les gens à lire ces deux livres. Ce sont parmi les plus courts, c'est pas... Il y en a d'autres encore plus courts, mais Amos et Osée se lisent très bien. Et il me semble qu'avec les explications que vous nous avez données, Michel, ça aide à mettre un peu plus en contexte et à avaler même les passages, je dirais, un peu plus difficiles. Sur ce, on va prendre une pause et après, on se tourne vers un autre grand prophète, Isaïe. Michel Proulx, après ce Amos, comment dire, coloré, dérangeant, qui déplace de l'air, est-ce que Isaïe va pas avoir l'air un peu tranquille et fade?
Pas du tout.
Non?
Ah, pas du tout. C'est une grande figure.
Oui. D'ailleurs, c'est un des quatre grands prophètes.
Oui.
On peut peut-être, je vais vous demander de préciser pour nos auditeurs, il y en a qui savent que le livre d'Isaïe a été écrit à trois périodes différentes, et donc ça fait comme s'il y avait trois Isaïe. Mm-hmm. Duquel vous allez nous parler?
Bien, celui qu'on appelle le premier Isaïe. Hein, on trouve ses oracles principalement dans les chapitres 1 à 39. Le reste du livre d'Isaïe comporte des oracles qui viennent vraisemblablement de deux autres prophètes anonymes qui sont d'autres périodes.
Oui, qui pourraient être des héritiers spirituels peut-être.
Oui, bien sûr, on peut les voir comme ça.
D'accord. Donc, on se concentre sur le personnage même d'Isaïe. Alors, c'est un grand prophète, vous me dites. Est-ce qu'il est à peu près à la même époque qu'Amos?
Il a commencé sa carrière peut-être une dizaine d'années plus tard, mais dans le sud, lui, dans le royaume de Juda.
Et on est dans quel contexte? Est-ce que c'est la même prospérité économique dans le sud?
Disons, c'est un autre contexte. Le sud a toujours été plus pauvre que le nord, mais c'est dans un contexte où le peuple est vraiment dans une période de tension, où ils sont menacés d'envahissement. Par le royaume d'Assyrie qui a repris du poil de la bête, qui a repris en force avec un roi qui s'appelle Tiglath-Pileser, qui est monté sur le trône, et qui a des velléités d'étendre son territoire, qui voudrait bien étendre vers l'ouest, puis avoir accès à la mer Méditerranée. Mais pour ça, il doit passer sur les territoires de Juda, d'Israël, et d'un autre petit royaume qui s'appelle Aram. Et le royaume de Juda se sent menacé et ils sont pris de peur.
Et est-ce que les Assyriens ont déjà conquis à ce moment-là le royaume du Nord?
Pas encore, mais okay. c'est sur le point de se faire. Et ils sont vraiment dans une période de danger. C'est ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. Et le roi Akaz, qui est celui qui règne sur le trône de Jérusalem, qui est un descendant de David, je dirais qu'il est un petit peu comme une poule sans tête qui court un peu partout pour savoir de quel côté regarder pour essayer de survivre, pour essayer de protéger son peuple. Et il cherche avec qui est-ce qu'il pourrait faire des alliances.
Des alliances politiques.
Des alliances politiques. Le prophète Isaïe, lui, dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il va inviter le roi à dire, on a déjà, nous autres, une alliance avec quelqu'un qui s'appelle Yahvé, qui est le Seigneur, qui est tout puissant, qui est bien plus puissant que le roi d'Assyrie ou que les deux petits royaumes du Nord, Israël et Aram, avec lesquels éventuellement il pourrait se liguer ou avec l'Égypte. Et il va dire, se liguer avec une autre puissance politique, d'une certaine façon, c'est un peu comme se prostituer. C'est être infidèle à l'alliance que nous avons déjà.
C'est comme manquer de confiance en Dieu?
C'est manquer de confiance en Dieu.
Okay.
Et Isaïe, moi j'aime le dire, c'est le radical dans la foi. Hein? Alors que la sagesse humaine dirait, ben, vous savez, comme avec nos placements, il faut diversifier nos placements.
Mm-hmm.
Ben, lui, Isaïe va dire, non, il faut mettre tous nos œufs dans le même panier et miser sur le Seigneur uniquement. C'est lui qui va nous faire sortir de cette situation périlleuse. Vous comprenez que le pauvre Isaïe, dire quelque chose comme ça, aller dire ça au roi, imaginez si de nos jours, là, on disait à un chef d'État, tu sais, tes problèmes, fais-toi-en pas avec ça. Là,
Dieu va s'en occuper, oui. Ouais.
Alors, vous comprenez que il n'est pas trop écouté.
Mm-hmm.
Hein?
Ouais.
Ça semble pas trop réaliste.
Et il craint quoi avec ses alliances? Est-ce qu'il craint qu'il y ait une influence des cultures, des religions de ces autres États avec lesquels le Juda pourrait s'associer?
C'est pas tellement comme ça qu'il présente les choses. Il le présente surtout en termes d'infidélité à Yahvé, avec lequel il y a déjà une relation.
Mm.
Hein? Et ça apparaît comme un manque de confiance, comme le fait de ne pas se fier. Il va dire, mais pourquoi courir après pourquoi désirer la force du cheval, la force de l'armée, alors que la véritable force, la véritable puissance, elle est dans le Seigneur.
Oui, l'image est éclairante,
oui.
Là.
Puis il aime beaucoup présenter Dieu comme le Saint, hein, comme le trois fois Saint. D'ailleurs, ça s'enracine dans l'expérience de conversion qu'il a vécue.
Oui, parlez-nous un peu de sa vocation. On est passé vite sur celle d'Amos, mais vous nous disiez en fin de section tout à l'heure qu'il y a une diversité chez les gens qui deviennent prophètes, ça vient d'un peu partout.
Oui.
Alors on se dit, mais comment ça leur vient l'idée d'être prophète?
Mm-hmm.
On a un beau récit de vocation chez Isaïe.
Oui, tout à fait. C'est au chapitre 6. Il nous dit qu'il y a une vision, qu'il voit Dieu dans le temple. Il voit un Dieu très impressionnant. Hein? Il dit, le temple est rempli de fumée, puis il voit Dieu sur un trône élevé, puis tout tremble autour, puis il voit des séraphins qui se crient l'un à l'autre,
oui.
Saint, Saint, Saint.
Et qui ne sont pas séraphins poudriers, là,
non,
hein, pourriez-vous, juste pour éviter la confusion.
Bon, c'est très difficile de savoir qui sont ces personnages, des anges, des êtres célestes, séraphes, saraphes, on pourrait traduire littéralement les brûlants, mais on ne sait pas exactement.
Mais
des figures un peu célestes qui célèbrent la grandeur de Dieu, sa sainteté. Et dans ce contexte-là, ce qui est très particulier, c'est que habituellement, quand un prophète est appelé par Dieu, les gens résistent. Hein? Et comme Jérémie qui va dire, « Oh non, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. » Puis ils essayent de se défiler. Dans le contexte de la vocation d'Isaïe, alors qu'il voit cette vision très impressionnante, il entend Dieu dire, « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? » Et on a ici un cas absolument unique. C'est quasiment comme si Isaïe levait la main et disait, « Moi, envoie-moi, Seigneur!
» Oui, il est volontaire. Quoi.
Oui, oui. Et Dieu va le purifier, va purifier sa bouche. Hein? Un des séraphins va prendre un charbon de l'autel, va venir toucher sa bouche, symbole de purification.
Oui.
C'est comme une préparation à ce qu'il puisse être porteur de la parole de Dieu.
Mm-hmm. Donc, au fond, c'est comme si Isaïe avait vécu un moment fort dans le cadre d'une liturgie. Hein, j'imagine que
c'est possible. On ne sait pas. Est-ce que c'est dans il décrit le décor du temple, la fumée, l'encens. Est-ce que c'est une expérience qu'il a vécue dans une liturgie, ou est-ce qu'il était ailleurs puis il voit ça comme dans une vision intérieure? On ne le sait pas, mais c'est pas ça le plus important.
Et c'est de là que vient le Saint-Saint-Saint, hein,
c'est
du ciel et de la terre.
C'est notre sanctus de la liturgie eucharistique.
Mm-hmm. Et donc, notre Isaïe est volontaire. Est-ce qu'il sortait d'un milieu rural comme Amos?
Non, pas du tout. On a une bonne différence là, avec Amos et Isaïe. En fait, on sait peu de choses de l'homme Isaïe lui-même, mais quand on voit à quel point il a facilement accès au roi, comment il s'adresse à lui à tout moment, ça nous donne à penser que c'est quelqu'un qui vient probablement du milieu de la cour royale.
OK, il a ses entrées à la cour.
Exactement.
Ce garçon.
Est-ce qu'il faisait partie des conseillers du roi? Est-ce qu'il fait partie d'une famille de haute noblesse?
Ah oui.
C'est difficile de dire exactement, mais en tout cas, il a certainement été dans l'entourage du roi pour pouvoir y avoir accès aussi facilement.
Mm-hmm. Et donc, il se permet d'aller dire au roi des choses, des vérités, que les conseillers du roi se permettent peut-être pas, finalement. Est-ce qu'il a la même audace qu'un Amos, ou est-ce que le fait qu'il soit un homme de cour le rend plus politiquement souple, ou je sais pas?
Oui, ben je vous dirais que dans un premier temps, il va surtout aller encourager le roi. On le voit au chapitre 7, il y a deux oracles célèbres où il va voir le roi Akaz, qui est tout tremblant, qui est en train de se préparer à la guerre pour résister à un éventuellement envahissement
par les Assyriens.
Et il va dire, veille à rester calme, hein, inquiète-toi pas, si tu mets ta foi dans le Seigneur, tout va bien aller. D'abord, il vient annoncer, il vient encourager, hein, il vient rassurer.
Donc, au fond, si c'est un conseiller du roi, on peut pas dire qu'il soit un critique virulent comme le Amos dont vous nous parliez tout à l'heure.
Vous savez, je vous dirais que tous les prophètes ont une parole critique. Et c'est le cas aussi d'Isaïe. Lui aussi, il va menacer à certains moments le roi qui ne veut pas mettre sa confiance dans le Seigneur. Il va leur dire, par exemple, qu'il va servir de la Syrie comme gourdin pour les punir.
Ah oui.
Donc,
lui aussi est un dénonciateur, même si c'est un homme de cour.
Oui, c'est ça qui est particulier.
Et on attendrait, quelqu'un qui tourne les coins un petit peu plus en douceur, mais il peut être ferme.
Bien sûr. Ouais. Et c'est là qu'on voit le travail de la parole dans la vie de quelqu'un. Comment quelqu'un va être travaillé par la parole, au point d'en venir à dénoncer les travers même du milieu dont il est
issu.
Tout à fait.
Je comprends bien, Michel. Isaïe, il me semble, est connu, peut-être pas lui, mais il y a des passages très connus d'Isaïe. Et entre autres, celui que Matthieu lui-même va reprendre dans son évangile à propos de l'annonce de la naissance de Jésus. Donc, et la jeune femme est enceinte, elle concevra...
Oui, du chapitre 7 d'Isaïe.
Voilà, alors on appelle ça les oracles... messianique.
Oui, ou de l'Emmanuel.
Oracle de l'Emmanuel. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que là, tout à coup, ça nous donne un homme d'espérance. Hein?
Exactement. C'est que, en fait, Isaïe s'est trouvé avec un roi, si vous me permettez l'expression, qui n'avait pas tellement d'allure. On peut dire que ce n'était pas un très, très digne représentant de la descendance de David, dans le sens que c'était pas un roi qui a répondu pleinement à ce qu'était sa mission.
Hein? Oui, honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rois qui ont bien répondu à leur mission.
Vous avez bien raison.
Dans l'histoire biblique.
À part peut-être David par certains côtés, puis Josias, mais de fait. Alors, Isaïe s'est mis à espérer qu'un roi meilleur allait venir. Il va trouver Akaz, qui en passant avait fait passer... celui qui aurait dû être l'héritier, son héritier, il l'avait fait passer par le feu, c'est-à-dire qu'il l'avait offert en sacrifice.
Et son propre fils, roi avait offert son fils.
Oui, c'est-à-dire le faire mourir.
Mais c'était interdit, ça, non?
C'était interdit.
Donc, il n'y a plus d'héritier pour le trône.
Exactement. Okay. Et là, Isaïe va venir le voir, puis va annoncer que le Seigneur va donner un signe et que ça va être la venue d'un roi qui lui sera fidèle, qui, lui, sera fidèle à ce que doit être la vocation d'un roi davidique, c'est-à-dire de prendre soin des petits, des pauvres, de garder le peuple dans la fidélité au Seigneur. Et c'est là qu'il annonce qu'une, on pense que ça parle d'une des jeunes épouses du roi, qui est enceinte et qu'elle va donner naissance à quelqu'un qui sera Emmanuel, hein, qui veut dire Dieu avec nous.
Oui.
Hein? Bien souvent, les chrétiens, nous avons relu cet oracle-là comme s'appliquant à Jésus.
Ce que Matthieu a fait.
Ce que Matthieu a fait.
Oui.
Mais dans un premier temps, dans un sens premier, Isaïe a en fait annoncé la venue d'un descendant à Akaz. Et ça montrait comment Dieu demeurait fidèle à son peuple. Même si son peuple était infidèle, même si le roi n'avait pas trop d'allure, que Dieu ne les lâchait pas, que Dieu ne les abandonnait pas et qu'il allait leur envoyer un nouveau roi qui, lui, serait fidèle. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est que le roi avait mission, théoriquement, d'être représentant de Dieu sur la terre. Hein? Tous les rois davidiques se devaient d'être des Emmanuel, d'être comme une présence de Dieu au milieu du peuple. Malheureusement, le roi qui va naître ne sera pas aussi formidable.
C'est Ézéchias. Hein, c'est pas si mal.
Mais disons, ça ne rejoint pas toutes les attentes.
Non. Je me rappelle, c'est des textes qu'on va lire à la nuit de Noël. On l'appellera prince de la paix.
Tout à fait.
Conseiller merveilleux.
Merveilleux conseiller, père à jamais.
Oui, quelque chose comme ça. Hein, c'est des très beaux textes.
C'est très beau.
Ça. Je ne sais pas si c'est encore Isaïe 7 ou 9, peut-être.
Tout à fait,
mais,
c'est ça.
C'est magnifique. Alors, ça veut dire que, finalement, c'est peut-être là qu'on enracine l'espérance en un roi tellement proche du rêve de Dieu que nous, on peut projeter ensuite, après coup, là-dessus, l'image de Jésus en tant que Messie.
Oui, parce que, dans le fond, Jésus, c'est celui qui a vraiment réalisé cette espérance-là. Probablement que l'homme Isaïe visait pas ça,
non.
Parce que lui voulait donner un signe haute en hébreu, quelque chose qui est vérifiable à son époque. Quand les chrétiens ont vu comment Jésus avait vécu, comment lui avait été attentif aux pauvres, aux mal pris, comment lui avait été une présence de Dieu au milieu du peuple.
Oui, un Emmanuel,
oui,
c'est ça.
Oui, lui l'a vraiment été, qu'il a vraiment été un fils de Dieu, qui a été un prince de la paix, même s'il n'a pas été assis sur un trône. Ben, ils se sont dit, dans le fond, Jésus a été vraiment celui qui avait annoncé.
Celui qui accomplit l'espérance d'un Isaïe mort depuis longtemps.
Exactement. Ouais.
C'est bien qu'on termine comme ça sur Jésus, puisqu'on n'est pas très loin de Noël.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire, c'était pas prévu, Michel, qu'on parle de ça, mais est-ce qu'on pourrait dire que Jésus est une sorte de prophète, puisqu'on vient de parler des prophètes?
J'aime beaucoup votre question. Ouais. Parce qu'à force de parler de Jésus comme fils de Dieu, comme Messie, on finit par perdre de vue que Jésus est quelqu'un qui se situe dans la grande lignée prophétique de l'Ancien Testament, de son peuple. Par exemple, vous savez, quand Jésus dit dans ce qu'on appelle, ce qu'on a coutume d'appeler la parabole du jugement dernier, Matthieu 25, quand il sépare les brebis des chèvres, le critère sur lequel il se base pour dire qui ira à la vie éternelle et qui ira au châtiment, c'est pas de dire bien quelle a été ta qualité de vie de prière, puis ta fidélité à la liturgie, c'est de dire est-ce que tu as donné à boire à celui qui avait soif, est-ce que tu as donné à manger à celui qui avait faim. Alors voyez-vous, il part du critère de l'attention aux personnes en situation de besoin.
Tout à fait.
Ben, quand Jésus se situe comme ça, il est tout à fait dans la ligne de ce qui était important pour les prophètes. Hein?
Oui, la solidarité, le communautaire. Oui.
Ou quand il dit, c'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais c'est ceux qui font.
Oui,
hein?
Oui.
Alors, il est tout à fait dans la ligne des prophètes. Hein?
Oui.
Il est quelqu'un qui veut annoncer le règne de Dieu. C'est un homme de la parole, qui annonce la parole. Et aussi, à certains moments, comme les prophètes, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les prophètes n'annonçaient pas seulement que par des oracles, mais ils avaient aussi des actions symboliques. Ben, Jésus en fait, quand il chasse les vendeurs du temple, quand il maudit le figuier, il y a là des actions symboliques qui veulent être porteuses d'un message, hein, d'une parole de Dieu. Alors, vraiment, Jésus, on peut dire qu'il a été un prophète. Pas seulement un prophète, Mais il a été un prophète. Ouais. Et en particulier, Luc aime beaucoup le montrer comme,
comme prophète. Et c'est dommage qu'on ait l'impression que c'est un titre à rabais, hein, parce qu'il n'est pas le seul prophète de l'histoire, donc il n'est plus prophète. C'est dommage, je trouve, on l'utilise pas suffisamment. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose de très contemporain dans cette manière de présenter Jésus comme prophète.
Hein. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Michel, on pourrait continuer longtemps, hein. Il y en a 16 prophètes, on a parlé à peine de deux. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du cours que vous allez donner à l'Institut pastoral?
Oui, ce sera du 18 mars au 15 avril. On aura 5 mercredis après-midi et ça portera le titre « Les prophètes des éveilleurs de conscience ». C'est un cours universitaire. Les personnes qui veulent avoir les crédits peuvent les avoir. Des personnes qui veulent venir simplement écouter le cours et en profiter sont bienvenues aussi.
Parfait.
Il faut bien sûr s'inscrire pour être
présent. Oui, je donnerai les indications pour le site Internet de l'Institut. Tout ça, Michel Proulx, un grand merci pour cette rencontre que je trouve stimulante. Et vous me rappelez à quel point j'aime les prophètes. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est agréable de se le faire redire encore une fois. Merci beaucoup, Michel.
Bien, c'est une joie d'en parler avec vous.